Merci pour d'avoir conduit ces chants, qui j'espère vous ont fait du bien comme à moi, de les entendre et de les chanter. Parler de Dieu. Si on me demande de parler de mon épouse, par exemple, si quelqu'un ne la connaît pas et qu'il la cherche dans un groupe, je dirais, oh, bah elle c'est facile, hein, c'est une grande et belle Antillaise, tu la trouveras facilement. Si on doit décrire quelqu'un, on dit bah, qu'il est grand. Bon, alors, on dit s'il n'est pas beau, on ne va pas dire qu'il est moche non plus, parce que ça ne se fait pas trop. Sauf peut-être pour certains cas caractérisés, que je ne citerai pas. On peut dire que la personne est grande, petite, qu'elle parle telle ou telle langue, que sa peau est de telle ou telle couleur, qu'elle a des cheveux ou pas, etc., etc. Mais si vous me demandez de décrire Dieu, je vais être quand même très embêté. Et le problème n'est pas nouveau. Comment parler de Dieu qu'on ne comprend pas dans son entièreté, on n'arrive pas à cerner? Comment parler? Alors dans la Bible, il y a un stratagème qui a été utilisé, c'est qu'on le compare un petit peu à un être humain. On parle du souffle de Dieu, on parle de sa main. Dans le livre de la Genèse, vous savez ce récit où Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden et où ils entendent Dieu arriver. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont entendu? Des pas dans le gravier? On colle sur Dieu des choses, des représentations qui nous sont familières. On parle de la main de Dieu. On parle des oreilles de Dieu, des yeux de Dieu. On fait comme on peut pour le décrire. Et en tout cas, on essaye de décrire quelque chose qui nous parle. Pour les théologiens, les gens qui ont envie de faire un peu de théologie aujourd'hui, ça s'appelle un anthropomorphisme. Ça veut dire qu'on donne à Dieu la forme d'un être humain. Le psaume 34, qui a été lu tout à l'heure, et je remercie mes frères et sœurs de l'avoir lu, donne cette figure de style. En posant une autre question, quand il est écrit « On tourne les yeux vers Dieu », mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisque si je fais ça, je tourne les yeux vers Dieu. On est aussi dans l'image. Tourner les yeux vers Dieu, ça veut dire penser à lui, ça veut dire s'adresser à lui. Et ensuite, le psaume dit au verset 16, « Les yeux du Seigneur sont sur les justes. » Ben aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux. Les oreilles sont attentives à leurs appels au secours ou à leurs prières, suivant les traductions. Et puis, le visage de l'Éternel ou du Seigneur est contre les malfaisants. Alors, le visage contre, là, ça ne nous fait pas trop envie. On voit les sourcils de Dieu qui se froncent et qui nous regardent. Contre! Alors, le psaume 34, avec ces images-là, a été cité par l'apôtre Pierre. Et j'aimerais lire la citation qu'il fait, où il va être question des yeux et des oreilles, seulement de Dieu. Alors c'est au chapitre 3 de la première lettre de Pierre, je la lirai dans la Nouvelle Bible second, au verset 8 jusqu'au verset 12. Et c'est une série de recommandations que Pierre fait, a priori il n'est pas du tout en train de faire de la théologie de haut vol, c'est plutôt de la théologie du quotidien, ce qui est très, très intéressant. « Enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, j'aime bien l'assortiment, une tendre bienveillance, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. » Donc souvenez-vous de ça à la sortie du culte, hein, si jamais. « Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter une bénédiction. » Et voilà le psaume. « Si, en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et sa lèvre de la ruse, et ses lèvres de la ruse, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Donc il s'agit d'une série de recommandations que Pierre vient appuyer avec la citation du psaume 34. Ces recommandations concernent les hommes, les femmes, les institutions, les domestiques, et il propose, à la fin de son développement, une attitude générale qui englobe la prière d'ailleurs. C'est intéressant de le souligner. Il ne s'agit pas que de relations entre nous de manière, qu'est-ce que je dois dire, horizontale, quoi. Il y a aussi cette aspiration spirituelle de s'adresser à Dieu dans ce contexte des relations que nous avons les uns avec les autres. C'est une recommandation que Pierre fait sans être, vous savez, moralisateur, légaliste, sévère. Oui, il y a ce petit coup de coude à la fin quand même. Quand il cite le psaume 34, il dit « Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal ». Mais à part ça, c'est, en gros, si vous voulez être heureux, faites le bien. C'est pas mal comme motivation d'être. C'est pas vous devez faire le bien avec un doigt, un index inquisiteur. C'est si tu veux réussir ta vie, mais fais le bien. Fais le bon choix de comportement. Revenons aux yeux et aux oreilles de Dieu. Au verset 12 donc de notre texte de Pierre. Là, je parle du texte de Pierre. L'un et l'autre sont mis en parallèle. C'est une manière de faire, de s'exprimer dans les psaumes, notamment dans les psaumes, de dire en gros deux fois la même chose, pas tout à fait, pour insister sur une donnée, sur une idée qu'on veut transmettre. Alors en l'occurrence, il dit une fois les yeux, une fois les oreilles, mais en gros le psalmiste, et là Pierre en le citant, dit la même chose, c'est-à-dire Dieu fait attention à ceux qui lui parlent. Les gens, alors les justes, qu'est-ce que c'est que les justes ? Dans le vocabulaire des psaumes, les justes, hein, j'ai lu, le Seigneur a les yeux sur les justes. Alors, d'un air de dire, tout de suite, on va dire, ouais, non, mais les justes, c'est nous. C'est assez naturel hein, de se considérer comme juste. Bien sûr, les injustes, alors là on a la liste. Hein. Alors, les justes, c'est un peu le contraire dans les psaumes, si on veut, des méchants. Les justes, c'est ceux qui essayent de traduire la justice de Dieu dans leur vie. Mais la justice de Dieu, c'est une notion dans la Bible qui n'est pas juste, pardon pour le jeu de mots, involontaire d'ailleurs, c'est pas juste, ben je le redis, mais enfin, je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est pas juste obéir à des lois, c'est faire preuve de bonté. Quand on dit que Dieu est juste, il y a quelque chose de l'ordre de la bonté de Dieu dans le vocabulaire de la Bible. C'est pas il fait preuve d'une justice implacable, il va condamner celui qui est à condamner. C'est presque l'inverse. Il va être prêt à pardonner celui qui est coupable de quelque chose. La justice de Dieu, c'est une notion très généreuse dans la Bible. Elle peut être aussi dure. Dieu est juste au sens où il dénonce le mal et il le condamne, oui aussi. Mais ce n'est pas sans la bonté de Dieu. Alors les justes, c'est ceux qui reçoivent cette bonté de Dieu, qui se laissent appeler à une vie juste. Je cite souvent pour définir ce que sont les justes, les drames de la Shoah, et les personnes qui ont contribué à faire échapper certaines personnes juives à la Shoah, au massacre de masse organisé par les nazis, sont appelées par l'État d'Israël, encore aujourd'hui, des justes. Alors qu'ils ont menti pour protéger. Ils ont menti aux nazis, enfin, ils ont parfois pris les armes même pour protéger des victimes potentielles de leurs bourreaux. Alors les justes sont ceux qui ont fait du bien. Et où sont ceux qui essayent de le faire? Alors là, j'espère que nous sommes tous justes, à ce sens. Non pas propres, parfaits, sans impeccables, mais juste parce que nous essayons de faire de nos vies quelque chose de beau et de bienfaisant. C'est d'ailleurs le sens de l'exhortation de Paul, de Pierre, pardon, hein, sensible aux autres, plein d'affection fraternelle, tendre, bienveillance, humilité, pas de mal contre le mal, pas d'insulte, etc. Bénisse. Donc oui, c'est ça, être juste. Et Dieu a ses yeux sur les justes et ses oreilles les écoutent. Dieu fait attention aux personnes, et en particulier à tout le monde, mais en particulier aux personnes qui s'emploient à avoir une vie caractérisé par le bien. Permettez-moi, j'ai dit que c'était une seule idée, puis là je vais me contredire. Je vais faire une faute d'exégèse, volontaire. Alors c'est de séparer les yeux et les oreilles. D'accord, le psaume dit la même chose, Dieu prend garde aux personnes qui veulent faire le bien de leur vie. Mais là je vous propose de voir deux choses. Les yeux d'un côté et les oreilles de l'autre. Adressons-nous aux oreilles d'abord de Dieu. Ah Seigneur, je t'aime. Je te donne ma vie. Je te suis fidèle. Ça, c'est pour les oreilles de Dieu. Mais pour les yeux de Dieu, je ne veux rien laisser voir de ma vie. Je ne veux rien le laisser voir une fois que j'ai fini de parler à ses oreilles. Vous savez, c'est un peu comme quand on téléphone. Vous téléphonez à votre belle-mère. Là, si c'est seulement le téléphone, vous pouvez être habillé, mais alors d'une manière abjecte. Mais vous pouvez parler à votre belle-mère. Tout va bien. Elle ne vous voit pas. Et heureusement, pas rasé, les cheveux hirsutes, un t-shirt avec les trois menus de la veille déjà imprimés, ça pue. Mais c'est pas grave, votre belle-mère ne voit rien de tout ça. Et quand on prie le dimanche matin, comment on est? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu à voir? Qu'est-ce qu'on a donné à Dieu à voir pendant la semaine? Et là, attention aux visioconférences. Attention. Vous êtes en télétravail. Le haut est bien. Il y a la chemise, la veste, le corsage pour mesdames, enfin. Et puis, dans le feu de l'action, sachant que vous ne vous êtes pas préoccupé du bas, dans le feu de l'action, vous allez chercher un stylo derrière vous, sans penser qu'à ce moment-là, dramatiquement, vous allez révéler à vos collègues de travail le bas de pyjama avec les portraits de Picsou dessus, vous voyez. Et là, vous allez être debout comme ça, et là, vous dites, je suis fichu, ils m'ont vu. Comment on s'adresse à Dieu? Comment on s'adresse à Dieu? Est-ce qu'on s'adresse seulement à lui au téléphone? Ou avec une visio où il n'y a que le haut? On ne parle pas qu'aux oreilles de Dieu. On se montre aussi à ses yeux. On ne peut pas faire comme s'il ne voyait pas quand on lui parle, comme s'il ne voyait pas notre vie quand on lui parle. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas avoir un beau discours et une vie qui le contredit. Ça ne marche pas. Parce que Dieu a des oreilles, oui, ok, il nous entend partout, il penche l'oreille vers nous, mais il a des yeux aussi. Moi, du fait que Dieu ait ces yeux-là qui me voient, j'ai presque envie de plus lui parler, de lui dire, Seigneur, j'ai plus rien à te dire que tu ne saches déjà, sinon que je t'aime parce que j'ai envie de te le dire, sinon de resignifier ma dépendance de ta grâce, de le redire simplement. Si ta vie parle avant tes paroles, alors le Seigneur t'écoutera. En revanche, si ta vie ne dit rien ou si elle dit le contraire de ce que tu vas dire, je ne sais pas si le Seigneur va écouter. S'il voit notre sincérité, il écoutera nos paroles, notre Dieu qui voit et qui entend. S'il voit nos efforts pour faire le bien, pour refuser le mal, pour éviter les disputes, lutter contre les injustices, la moitié de notre prière sera déjà prononcée. Et d'ailleurs, ces actions-là seront des prières, pourrions-nous dire. Si le Seigneur voit notre vie, à quoi sert-il de répéter 1000 fois la même prière? À la fois, s'il voit notre vie où on essaie de traduire, répondre à l'appel de Dieu, ça ne sert à rien de répéter les prières. Et si notre vie ne répond en rien à l'appel de Dieu, ça ne sert pas non plus de répéter des prières sans fin, sinon peut-être celle de la demande de pardon. Je vous propose que nos vies soient des prières en hommage au Créateur. Quand demain vous allez vous lever, pas nous, parce que je vais me lever aussi demain, dans mes projets en tout cas, que nous disions, ben voilà, aujourd'hui, ma journée va être une louange à Dieu. Je ne vais pas lui parler tout le temps, je ne vais pas chanter comme ce matin on l'a fait, c'est très bien, je vais le faire avec plaisir et avec joie. Mais quand je vais aller à mon travail, ma manière de travailler va être une louange à Dieu. Quand je vais avoir des choses difficiles à dire à des gens, ça va m'arriver moi cette semaine, je vais faire en sorte que même là, dans les moments où il faut trancher, où il faut dire des choses pénibles à des gens, on le fasse comme une louange à Dieu. Au moins, je vous propose ce défi-là, je me le propose à moi, je nous le propose à nous. Au travail, à la maison, en train de faire les courses, en train de conduire, tenez. Ma conduite soit une louange à Dieu. Surtout quand il y en a un que tu as envie de traiter de certains noms d'oiseaux. J'ajoute la dimension communautaire. Elle est très, très présente dans la lettre de Pierre. Très présente parce qu'il s'adresse à on ne sait pas exactement à qui, mais là, il est question de relations. Vous l'avez noté comme moi. Pas forcément des relations intra-communautaires, mais ça peut être aussi des relations intra-communautaires. Quand il est écrit, par exemple, « Ne rendez pas le mal pour le mal », dans d'autres contextes, c'est dit pour les relations des chrétiennes et des chrétiens dans la société. Le dimanche matin, quand nous prions, moi j'aime bien écouter vos prières, elles me font du bien, parce que je me dis, tiens, ma sœur pense ça, mon frère pense ça, il a envie de le dire à Dieu, ouais, c'est chouette. Mais à la sortie du culte, vivons ces choses. Tout à l'heure, je vous taquinais, mais c'est vraiment ça. Vous discutiez avant, d'ailleurs moi aussi, avant le culte, on a eu un peu de peine à se rassembler, mettre bien assis sur une chaise, bien droit. Et puis tout à l'heure, on va de nouveau discuter, ce sont des temps cultuels pour moi, des temps où on va mettre en œuvre ces commandements, ces exhortations de l'apôtre Pierre, on va le mettre en œuvre. Ça ne commence pas demain matin, ça commence à la sortie du culte. Pour notre vie communautaire, c'est important que les gens qui viennent, nos visiteurs, et ils sont tous les bienvenus, soient intégrés dans cette bonne humeur, dans ces relations saines, dans quelque chose qui est une louange à Dieu. Si nous donnons à voir, en revanche, des relations abîmées par l'orgueil, des luttes de pouvoir, à savoir qui aura raison, qui a tort, du mépris pour les gens différents, s'il y a du racisme, du sexisme parmi nous, que donnerons-nous à voir au Dieu que nous avons prié ensemble? Qu'est-ce que Dieu conclura? Comment exaucera-t-il nos prières? Lesquelles écoutera-t-il? Lesquelles verra-t-il? Dans le texte d'Ésaïe, au début de la lettre d'Ésaïe, il y a à ce sujet une phrase très dure que les prophètes Ésaïe adressent. Et ça rejoint quelque part la dureté de la fin du verset 12 de Pierre. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Premier chapitre d'Ésaïe. Quand bien même vous multipliez vos prières, je n'entends pas. Dit Dieu, verset 15, « Vos mains sont pleines de sang. » Alors bon, là, vous allez me dire, Jean-Marc, calme-toi, nos mains ne sont pas pleines de sang. Enfin, c'est vrai que le contexte d'Ésaïe était beaucoup plus sévère que celui que nous, j'espère en tout cas, que nous vivons. Mais vous aurez compris le mécanisme que Ésaïe là exprime, c'est-à-dire Dieu voit les mains pleines de sang et il refuse d'écouter les prières. C'est pour ça que je nous dis, non pas qu'il faille mériter l'attention de Dieu. Non, Dieu fait grâce, nous ne méritons rien. Mais ce qu'il demande, c'est une prière de tout notre être pour pour ses yeux autant que pour ses oreilles. Alors, je reviens à la, pour finir mon propos, je reviens à l'invitation de Pierre. Voulez-vous être heureux ? Si quelqu'un, j'aime bien ce verset 10, est-ce que vous aimez la vie ? C'est comme le goûter tout à l'heure. Hein, qui n'aime pas hein, qu'est-ce qu'on a vu là ? Des fruits, j'ai vu, des petites barquettes aux fraises. Voilà, qui n'aime pas ce genre de choses, franchement ?
Des muffins au Nutella.
Des muffins au Nutella. Non, moi, alors. Ouais. Alors, moi, ce qui me tente le plus, c'est quand même les fraises, hein, j'avoue. Je ne sais pas vous, hein, mais bon, bref. Merci de l'avoir remise, tu peux la laisser. Si, en effet, quelqu'un veut aimer la vie, qu'est-ce que j'aime ça ? Et voir des jours heureux. Présenté comme ça, tu te dis, attends, l'andouille qui dit non, franchement, et ben, qu'il préserve sa langue du mal, etc. Et le Seigneur est là. Ben, je vous invite à être heureux. Je vous invite à passer une belle semaine dans la louange par les actes, tout autant que par les paroles, tout simplement. Prions. Nous te remercions, Seigneur, parce que tes yeux sont sur nous, tes oreilles, tu penches l'oreille vers nous. Nous te remercions de nous conduire cette semaine à te prier, à prier tes yeux autant que tes oreilles. Seigneur, nous, en même temps, nous, on ne va pas relever le défi. On ne va pas y arriver. On va avoir des moments où on attristera ton regard. Alors Seigneur, nous te prions que dans ces moments-là, nous sachions te demander pardon et redémarrer une relation belle avec toi. Que personne d'entre nous, Seigneur, devant ce défi que nos vies soient une louange, ne se laisse culpabiliser ou enfermer dans la culpabilité. Mais quand nous voyons que nous n'y sommes pas arrivés, que nous venions vers toi justement et que nous te demandions ta grâce pour recommencer. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la grâce et tu nous donnes du bonheur. Amen.